Technologie, science,
algorithme, simulation,
informatique.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 90e épisode du podcast Interstice. En février dernier, le monde entier a eu les yeux rivés sur l'atterrissage du rover de la NASA Perseverance sur la planète Mars dans le cadre de la mission Mars 2020. Comme vous allez le découvrir avec notre invité du jour, l'informatique s'immisce dans de nombreux domaines. De l'astronomie à l'informatique, il n'y a qu'un pas. Pour en discuter, nous recevons donc Mathieu Vola, ingénieur CNRS en informatique à l'Observatoire de Lyon, en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme des données martiennes Mars-SI. Mathieu Vola, bonjour.
Bonjour.
C'est un monde assez fascinant dans lequel vous évoluez et nombreux sont celles et ceux qui rêveraient d'être à votre place. Comment en êtes-vous arrivé de l'informatique à cette problématique autour des missions martiennes ?
Mon arrivée dans ce monde-là, c'est un peu une suite de hasard. En fait, après, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler à INRIA pendant quelques années et j'étais passionné par la recherche. À la fin de ces premiers contrats, en fait, mon chef d'équipe d'époque m'a suggéré de transiter vers un petit peu plus les sciences fondamentales et d'aider à faire du traitement de données pour l'observation de la Terre. J'ai passé 4 ans à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble sur ces thématiques-là. Et à ce moment-là, en fait, s'est ouvert un poste, ce coup-ci, sur concours à Lyon, justement, pour faire la même chose, mais sur Mars. Donc, j'ai candidaté. Et puis, en fait, il se trouvait qu'on transitait assez bien de la Terre à Mars. Et j'ai eu cette opportunité.
Vous travaillez sur un outil unique de gestion de données orbitales de la surface de Mars qui s'appelle Mars-SI. Donc c'est un acronyme de Mars Système d'Information. Et cet outil a servi dans le cadre de la préparation du robot Perseverance. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette application ? De quoi s'agit-il exactement ?
Oui, alors Mars-SI, qu'on appelle des fois Mars-SI, on n'est jamais trop sûr en nous-mêmes, c'est en fait un outil qui va nous permettre de trouver de la donnée sur Mars. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a déjà acquis beaucoup, beaucoup d'informations dans l'observation de Mars. En général, bien entendu, ces données-là, ce sont les agences spatiales, la NASA, le CNES, l'ESA qui la gardent. Par contre, en fait, autant on a des dépôts de données qui sont fabuleux et vraiment bien entretenus, mais souvent, on a du mal à accéder à cette donnée-là. Mars-SI, c'est un portail, en fait, qui va permettre d'aller chercher de la donnée sur Mars. Pour ça, on va se baser sur une interface web qui nous présente la carte de Mars et où est-ce qu'est la donnée, quel type de données est-ce qu'on a, est-ce qu'on va avoir des images couleur, des images noir et blanc, ou des instruments radicalement différents qui nous permettent justement d'étudier Mars. Parce que quand on regarde Mars de nos jours, c'est vraiment, on ne regarde plus la planète au télescope comme un petit point rouge, on connaît bien les vallées, on connaît les fossés, les volcans, et on veut aller voir d'un peu plus près effectivement ce qui nous intéresse. Et on veut pouvoir assez facilement récupérer de la donnée qui a été traitée automatiquement, pour ensuite faire tout le travail d'analyse et commencer à tirer des conclusions vis-à-vis des endroits qu'on regarde sur Mars.
Vous dites qu'on connaît bien Mars, mais au final, Perseverance n'est que le 5e robot à atterrir sur Mars. Ça veut dire que grâce aux missions précédentes, il y a déjà eu beaucoup de collectes de données sur Mars qui permettent d'avoir une vision assez juste de ce qui s'y passe.
Les robots vont nous faire l'analyse vraiment du terrain à petite échelle. Curiosity a commencé à avoir fait une belle randonnée, mais même elle est assez limitée. Ça ne permet vraiment de regarder effectivement qu'un endroit limité. Ça fait des années qu'on ne regarde plus Mars au télescope. On a des satellites qui le regardent de beaucoup plus près, qui nous donnent déjà une bonne connaissance de la planète en elle-même et de ses caractéristiques. On connaît toutes les vallées, on connaît là où sont réellement tous les restes de ce qu'aurait pu être des fleuves probablement, où sont les cratères, où sont les volcans. Et ça, il n'y avait pas besoin d'un rover. Le rover, par contre, lui, va s'intéresser vraiment aux petits cailloux.
D'accord, c'est donc pour plus une analyse géologique et donc chimique de la topologie de Mars.
On peut le voir même plus comme une question d'échelle. On pourrait dire, effectivement, jusqu'au XXe siècle, on regardait vraiment Mars comme un petit point rouge dans le ciel. On l'a amélioré, on a commencé à voir des choses, dont cette fameuse période transitoire où on a cru voir des canaux et on s'est imaginé qu'elle était habitée et tout. Là où les instruments sont devenus vachement plus précis, on a commencé à voir les choses et on est passé vraiment à une échelle supérieure quand on a commencé à mettre des satellites, des sondes autour de Mars. Quand on la regarde en haut, déjà, bon, on va commencer à voir notre première carte globale de Mars, assez précise. Encore une fois, on a eu des petits sauts de puce lorsqu'on a affiné notre vision de Mars, qui était, ben là, on a vu un rocher qui ressemble à un visage. Ben non, en fait, 10 ans plus tard, la mission suivante, qui est plus précise, nous montre que c'est un rocher tout à fait normal. Et en fait, ben, quand on passe au rover et au sonde au sol, on va vraiment passer à l'échelle où ce coup-ci, on va regarder, mais vraiment des cibles très petites. On va aller regarder un caillou en particulier à la surface de Mars.
Du coup, je voulais revenir à Marsessi. Est-ce qu'il y a une spécificité pour développer ce genre d'application?
Marsessi, donc en fait, il a certaines spécificités, mais comme je disais un peu avant, c'est qu'on repart beaucoup en fait de ce qu'on a fait sur l'observation de la Terre. Et d'ailleurs, même scientifiquement, c'est comme ça qu'on regarde Mars. On le regarde un petit peu comme vraiment notre sœur qui a pas si bien fonctionné pour la vie en tout cas. Et on va faire pas mal de transferts en fait des techniques qu'on a eues. Et c'est par contre c'est du transfert mais des adaptations. On se rend compte qu'on observe une planète qui est 2 fois plus petite, qui est pas formée de la même manière. On a aussi énormément, et ça c'est une bonne chose, hein, standardisé beaucoup de choses pour l'observation de la Terre, mais on se rend compte que ces choses-là, il faut les réadapter quand on est sur Mars. Les conventions, on les a, mais généralement, ça demande quand même de réadapter le logiciel. Donc, faire un logiciel de carte sur Mars, on va repartir de l'existant qui a été fait pour la Terre, mais on va devoir l'adapter, le préparer pour s'assurer que les cartes sont fiables. Parce que ça, c'est important lorsqu'on veut travailler sur une zone en particulier.
Et donc c'est une mise à jour qui se fait au moment des explorations.
Alors, en fait, les explorations, c'est toujours divisé en 3 phases qui sont vraiment assez hachées. On va avoir toute la partie de préparation, où en général on va se baser sur ce qu'on connaît déjà, les missions précédentes, ce genre de choses. On va intervenir beaucoup là-dessus dans Marsessi. On va avoir l'exploitation de la mission. Là, on va intervenir un petit peu moins parce que Marsessi, c'est, on va dire, vraiment un portail d'accès à de la donnée, mais on va dire de la donnée qui est déjà assez fiable, assez sûre. C'est pas une plateforme d'expérimentation. Et on va avoir après l'exploitation de la mission, une fois qu'elle est, on va dire, à son rythme nominal, qu'elle est bien établie, qu'elle produit de la donnée de manière fiable, et puis l'après, là, on va intervenir aussi pour mettre à disposition les données de cette mission-là à l'ensemble de la communauté scientifique.
Justement, comme vous parlez de données, on a tendance à imaginer qu'il y a une quantité extraordinaire de données qui vont être collectées, sur Mars. Comment ça se passe en réalité? Comment elles sont gérées ou traitées, ces données?
Comme toute acquisition de données, en fait, c'est beaucoup lié au fait de nombre d'observateurs qu'on a. Mais ça génère un volume de données qui est certes assez impressionnant, mais qui est assez négligeable par rapport à d'autres problématiques qu'on a déjà traitées dans le passé. Pour vous donner un exemple, Marsessi, donc, ne fait pas une copie intégrale des données, il ne fait que les données qui intéressent les gens au fur et à mesure de leur science. On tourne en ce moment à 50 téra de données. Ça fait beaucoup, mais en fait, on sait gérer ces volumes-là de données. Les traiter, c'est aussi lié à leur volume. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas trivial non plus, mais on sait le faire. On a un petit cluster qui contient 80 CPU qui nous permet de traiter toutes ces données, mais avec ça, on arrive même à supporter à peu près la demande de la planète entière concernant Marsessi.
Du point de vue scientifique ou technique, quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté dans le cadre de ces projets?
On va avoir un certain nombre de difficultés qui peuvent être parfois très simples, mais qu'on n'avait pas vu venir. On va parler effectivement de l'acquisition de la donnée, de vérifier qu'elle est dans un format qu'on peut exploiter, qu'il n'y a pas de surprise vis-à-vis de la donnée elle-même. Ça peut devenir aussi, selon les types de données qu'on travaille, devenir très compliqué. Si on parle de regarder simplement des images couleur ou noir et blanc, par exemple, c'est des données qui sont assez faciles. Mais on a aussi des instruments beaucoup plus complexes que ça, qui regardent dans des longueurs d'onde beaucoup plus variées, qui nous permettent de faire de l'analyse chimique depuis l'espace. Ces données-là, ça demande une grosse expertise et un traitement parfois un peu plus compliqué à paramétriser pour pouvoir les exploiter ensuite.
Justement, est-ce qu'il y a une standardisation des types de formats qui permet à la communauté scientifique enfin, le fait que tout le monde puisse récupérer ces données et les exploiter?
En fait, ce qui est toujours assez compliqué dans ce domaine, c'est peut-être sa spécificité, c'est que la course à l'espace, c'est vraiment une course, toujours. Et en général, comme beaucoup d'aspects dans la science, on va d'abord se projeter pour obtenir un résultat scientifique. Généralement, un petit peu au détriment, on va dire, du formalisme dans la gestion de la donnée, des formats, ce genre de choses. Néanmoins, c'est des problématiques qu'on se pose de plus en plus au cours des années parce qu'on commence à se rendre compte, comme d'autres champs, qu'on a accumulé des quantités de données assez impressionnantes, qui commencent à se poser aussi des questions d'archivage à long terme, de traçabilité, d'accès même pour les générations futures. Donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a un sujet d'observation qui est complètement inédit, mais par contre, on a aussi toute l'expérience qu'on a eue à traiter des données similaires sur Terre avant. Donc on se rebase beaucoup sur ces choses-là.
Vous êtes également impliqué dans le projet de rover européen de la mission ExoMars 2022, qui décollera le 20 septembre 2022 si tout se passe comme prévu. Quels sont les enjeux scientifiques autour de cette mission à plus ou moins long terme?
Alors c'est assez intéressant puisque on va dire dans le cadre de Persévérance et ExoMars, on a des objectifs qui se recoupent un petit peu. Persévérance, c'est parti donc dans un ancien cratère lacustre avec l'objectif de chercher à la fois des traces de vie superficielles, mais aussi de faire beaucoup de géologie un peu plus conventionnelle. Donc on va avoir des beaux résultats là-dessus. ExoMars, pour cette mission-là, l'ESA a choisi d'essayer vraiment de se concentrer uniquement sur l'aspect de recherche de traces de vie sur Mars. Ce qu'on va chercher, c'est clairement pas un fossile ou de la vraie vie. On sait très bien que depuis 3 milliards d'années, ça peut plus exister sur Mars, mais on aimerait bien retrouver ce qui aurait pu être la vie, des briques, des restes, et ça nous donnerait beaucoup d'informations pour savoir comment est-ce que la vie peut se créer ou échouer en cours de route. Et pour ça, ExoMars va avoir des instruments, certains qui ressemblent beaucoup à ceux de Persévérance. Mais dans d'autres cas, on va avoir des instruments un peu plus inédits. Par exemple, on va avoir une capacité de forage à 2 mètres de profondeur. Le rover Rosalind Franklin d'ExoMars va essayer d'aller vraiment chercher beaucoup plus profond. On va aller dans ce qu'on pense être l'ancien fond océanique de Mars, sur Oxyaplanum, pour essayer de trouver justement est-ce qu'on pourrait pas trouver dans des vieux dépôts argileux des traces en profondeur de ce qu'aurait pu être la vie.
Pour finir, quelles sont les prochaines étapes de notre conquête spatiale, si on peut dire, du point de vue informatique, en termes de perspectives d'évolution ou de défis, selon vous?
Finalement, on est assez jeune par rapport à d'autres thématiques et on se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail à faire en termes de collaboration, de coopération, de travail sur les formats, sur les standards, sur notre capacité à partager la donnée, à l'archiver au long terme pour la garder. Ça va être déjà un gros travail. On essaie de s'organiser un petit peu là-dessus. Déjà, rien qu'à l'échelle nationale, ça fait beaucoup de choses à faire. Une autre problématique qui va nous venir assez rapidement, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte maintenant, après toutes ces années, on sait que quand on a un instrument, une caméra en particulier, par exemple, on sait assez bien en exploiter les résultats. La prochaine étape, maintenant, ça va être de complexifier un peu ça va être de croiser, quand on a plusieurs instruments, de croiser les résultats et d'obtenir des nouveaux résultats. On peut avoir des choses vraiment nouvelles qui apparaissent à l'œil dans ces cas-là. Ça va être de dire, est-ce que si je regarde quelque chose depuis l'orbite, est-ce que je le regarde depuis le sol avec mon rover, si je croise les informations, qu'est-ce que je peux faire sortir de nouveau, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau sur la surface de Mars? Ça sera aussi une grosse problématique dans beaucoup de domaines à venir. Et c'est vrai que par exemple, pour essayer justement de tirer profit de toutes ces données, on va devoir utiliser des nouvelles méthodes. Et par exemple, l'intelligence artificielle, c'est une thématique qui a l'air assez intéressante pour nous aider à explorer ce champ de possibilités.
Merci Mathieu Vollat d'avoir accepté cet entretien.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.